CFM Cahors, le mag.
Et bienvenue sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag. Aujourd'hui, on va parler culture, mais en même temps, on va aussi parler de science, on va parler de paléontologie, on va parler d'histoire. Oh là là, mais quel programme les amis. C'est pas moi qui vais vous en parler, rassurez-vous, et ça va pas se faire en 25 minutes. Par contre, je vous promets que pendant ces 25 minutes, on va essayer de vous donner envie d'aller aux conférences organisées par l'Université pour tous, Cahors-Quercy, puisque ce sont nos invités aujourd'hui dans le mag. Soyez les bienvenus, vous êtes sur CFM Cahors. Effectivement, nos invités qui sont là et qui représentent cette université pour tous, Cahors-Quercy, avec pour commencer le président Michel Bélanger. Bonjour Michel.
Bonjour.
Nous avons également notre la vice-présidente Danielle Mariotto. Bonjour Danielle.
Bonjour.
Et Danielle Mariotto qui est aussi en charge de la programmation. Donc forcément, vous étiez obligé de venir pour nous parler de cette nouvelle saison qui arrive.
Oui, bien sûr. Oui.
Comment s'est passée la saison 2020-2021?
Elle s'est passée en pointillé, comme on dit.
Ouais.
C'est une année qui a été un peu catastrophique pour nous. Nous avions un effectif pour une jeune association de 4 ans d'existence. Nous avions atteint presque les 400 adhérents. Et là, on a été obligé de tout remettre à zéro. Et ça a vraiment été difficile. On a essayé de pallier l'absence de présentiel, mais on a fait des conférences en visioconférence.
Ouais. Mais ça ne donne pas pareil.
Non, parce qu'il manque le contact. Mmh. Et surtout, nos adhérents, qui sont en majorité des personnes de plus de 60 ans,
sont pas toujours
ont besoin de contact et de relations.
Et puis, ils ne sont pas toujours à l'aise avec la vidéoconférence. C'est d'ailleurs un de vos buts aussi. On en profite, puisque vous en parlez, puisqu'on est en train d'aborder le sujet. C'est que vous aussi, vous profitez de... vous faites aussi de la formation... vous participez à la lutte contre l'exclusion numérique, Danielle Mariotto.
Oui, tout à fait. Nous avons mis en place des ateliers numériques où nous accueillons des personnes qui sont en difficulté devant un ordinateur avec une progression. Donc nous avons 3 séances, nous avons 5 séances sur 3 ateliers de niveaux différents entre les débutants et les plus perfectionnés.
Qui sont les personnes, alors les adhérents, j'imagine que du coup vous avez pu constater, comme beaucoup d'associations d'ailleurs, qu'avec cette crise sanitaire, qu'avec ces confinements successifs, je pense que vous avez dû subir une baisse d'adhésion parce qu'il y avait forcément une baisse d'activité aussi.
Oui, effectivement, je disais tout à l'heure, nous allions atteindre les 400 et nous sommes actuellement 330.
Ça va, c'est pas...
C'est déjà... Mais ça revient tout doucement, mais il y a encore des gens qui hésitent à venir aux conférences en présentiel.
Et puis ça va revenir parce que de toute façon, on va vous parler très brièvement de votre programmation. Je dis bien brièvement parce que il me faudrait 2 heures là. Quand je vois le programme en face, je suis désolé, si on devait parler de tout ce qu'il y a, il nous faudrait quand même 2 heures. À l'Université pour tous, comment ça vous est venu de créer cette association d'ailleurs, entre parenthèses?
Alors cette association a été créée suite à un travail d'un groupe de personnes qui s'est appelé le Conseil des sages, mis en place par la ville de Cahors en 2017. Et 2 ans après, notre association était créée, puisqu'on avait recensé pas mal de besoins, des besoins de contact, des besoins de relations, des besoins de connaissances, de partage de savoir. Et c'est comme ça que notre association a été mise en place, avec la première conférence fin 2018.
D'accord, directement. Enfin, c'était sur quoi? Vous vous souvenez du thème?
Je ne me souviens plus de la conférence d'Agnès.
J'avoue que ça m'échappe aussi.
Parce que, et je vous comprends, parce qu'entre-temps, il s'en est passé des choses. 2020, vous avez aussi fait l'année Gambetta comme vous pouviez le faire.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé pour Gambetta?
Alors,
on ne va pas dire ce qui ne s'est pas passé. Parce que, bon.
Alors, cette année Gambetta, finalement, s'est conclue de façon très positive, puisque entre une dizaine de conférences, on a eu à peu près 400 participants. La marque de fabrique de cette année Gambetta, c'était que nous étions unis avec l'association des anciens élèves du lycée du collège Gambetta et la Société des études du Lot. Donc c'est une synergie entre ces 3 associations qui a permis de faire venir des conférenciers très spécialisés dans le domaine de l'histoire du 19e.
Est-ce qu'il y avait tant de choses à dire sur Gambetta qu'on ne connaissait pas d'ailleurs?
Énormément, parce que finalement Gambetta n'est pas très connu des Lotois ni même des Cadurciens.
C'est ce qui est un comble, hein. Nul n'est prophète en son pays, mais par exemple, c'est l'exemple.
Oui, on a toujours cette image d'Épinal, enfin qui n'est pas tout à fait d'Épinal, mais de l'envol du ballon depuis la butte Montmartre, lorsque Gambetta a décidé de franchir les lignes ennemies pour organiser la défense nationale, mais Gambetta, c'est beaucoup plus que ça. C'est évidemment le fondateur de la Troisième République, la mise en place de valeurs républicaines qui aujourd'hui encore nous sont chères, comme la liberté de la presse par exemple, des choses auxquelles on ne pense plus. Et puis aussi, c'était un homme qui humainement était très, très intéressant. Nous avons d'ailleurs organisé une conférence sur Gambetta et Pistolier au théâtre municipal, conférence théâtralisée avec des lectures de ses lettres et qui a recueilli un grand succès.
Et c'est ça, cette année, Gambetta, ça a permis de faire connaissance avec des facettes d'un homme qu'effectivement qu'on connaît mal. Et par exemple, souvenez-vous, les éditions Idikos qui avaient sorti le livre sur sa relation amoureuse
avec Léonie. Oui.
Donc c'est vrai que s'il n'y avait pas eu cette année Gambetta, peut-être que, est-ce que vous, par exemple, vous auriez pensé faire... toutes ces recherches, à étaler toute cette connaissance qu'on a sur cet homme, à faire voir ce côté qu'on ne veut pas voir.
Ah mais justement, la conférence Gambetta et Pistolier, l'objectif c'était de découvrir l'homme intime. Et justement, notamment sa relation avec Léonie Léon, mais pas que, parce que Gambetta était un grand épistolier, avec ses amis, avec sa famille, avec les femmes qu'il a connues. Et évidemment, principalement avec Léonie Léon.
C'est quoi un épistolier ?
Eh bien, quelqu'un qui rédige beaucoup de lettres. Par exemple, avec Léonie Léon, on a un corpus d'à peu près 4000 à 6000 lettres, ce qui est considérable sur une dizaine d'années. Et un homme qui écrivait très bien et qui se découvrait d'une façon tout à fait personnelle. Dans ses lettres, contrairement, ça n'a rien à voir avec les discours politiques.
Oui, qui étaient totalement différents. Michel Bélanger, dans votre association à l'Université pour tous Cahors-Quercy, vous faites aussi quelques ateliers. Donc, on a déjà parlé de l'atelier informatique où, pour permettre aux gens d'être un peu plus à l'aise avec le numérique, qui prend une place importante dans notre vie. Il y en a deux autres notamment aussi.
Oui, alors les autres ateliers ont été créés dès l'origine de l'association. C'est un atelier généalogie. Ça permet aux personnes de faire leurs recherches, d'avoir une technique de recherche auprès des archives départementales ou à travers des sites dédiés à la généalogie. Sur la photo également, tout le monde fait des photos. Maintenant, avec son smartphone, tout le monde fait des photos.
Mais est-ce qu'on le fait bien ?
Mais est-ce qu'elles sont bien ? Est-ce qu'elles sont encadrées ? Est-ce qu'on on a l'œil pour aller chercher le détail dans le paysage ou dans le portrait ? Et c'est un peu le but de cet atelier, c'est d'essayer d'être un peu un poète, un peu artiste, même avec son smartphone.
Vous les faites tous, ces ateliers, ces conférences ?
Alors, les conférences sont faites au centre universitaire Maurice Faure, l'ancien établissement qui formait les instituteurs il y a quelques dizaines d'années. Et les ateliers se font là-bas aussi, parce qu'on profite du dispositif Wi-Fi qui est installé sur le centre universitaire, ce qui n'est pas encore le cas sur la maison des associations, mais c'est promis, on l'aura bientôt.
Et le tarif d'entrée de ces conférences ?
Alors, pour les adhérents, toutes les conférences sont gratuites. Sauf s'il y a une dépense supplémentaire, on peut, sur une ou deux conférences, majorer de 4-5 euros. Même pas une majoration, mettre un montant très faible. Mais c'est le principe. Conférenciers viennent bénévolement. Et les conférences sont gratuites pour tous nos adhérents.
Alors, justement, quand on parle des conférenciers, quand on voit le programme, et on va vous révéler dans quelques instants quel est le programme qui arrive, et notamment avec cette année 2022, il y a peut-être aussi des personnes à célébrer. Mais d'abord, c'est pas n'importe qui, j'imagine, qui doit faire ces conférences. Vous devez avoir des garanties quand même pour éviter que le premier venu fasse une conférence sur la science quantique ou que sais-je.
Mais ça, c'est un peu le travail de Daniel, c'est pour ça que je vais lui passer la parole. Parce qu'il y a une commission de programmation.
Oui, effectivement, nous avons une commission de programmation donc qui reçoit toutes les propositions de conférenciers dans les domaines les plus variés. Et au sein de cette commission, nous auditionnons les futurs conférenciers chaque fois qu'on le peut et nous faisons une sélection. D'une manière générale, tous nos conférenciers sont soit des universitaires en activité ou en retraite, ou des personnes qui ont une formation universitaire.
D'accord. Et comment vous faites pour trouver les thèmes? Est-ce que ce sont eux qui vous les proposent? Ou justement, dans cette commission, vous dites, tiens, ça serait pas mal que l'on parle de ça?
Eh bien, depuis le début, ce sont les conférenciers qui proposent les thèmes. Alors, au fur et à mesure que nous avançons dans les années, c'est vrai qu'on s'aperçoit que certains domaines, par exemple, sont un peu moins couverts que d'autres domaines. C'est le cas, par exemple, de la littérature. Donc, on essaie de susciter de nouveaux thèmes, mais les conférenciers eux-mêmes nous fournissent d'autres contacts, et de contact en contact, on arrive à une programmation qui est tout à fait variée et qui couvre beaucoup de domaines.
Est-ce que ça veut dire que les conférenciers en eux-mêmes, ils doivent quand même à chaque fois préparer leurs conférences, ils doivent à chaque fois trouver des sujets pour éviter de tourner en rond dans leur domaine en plus?
Oui, mais alors il y a une particularité, c'est que nous avons pour certaines conférences des cycles. Par exemple, je prendrai le thème du Moyen-Orient, nous avons un cycle Moyen-Orient. Nous avons un de nos bénévoles qui a fait des études d'histoire, mais qui est passionné par ce sujet du Moyen-Orient. Et c'est un cycle qui se poursuit depuis 4 ans. Mmh. Et chaque année, nous avons de nouveaux thèmes sur un domaine qui est tout à fait d'actualité. Parce que parler du djihadisme des Kurdes ou de l'Arménie, c'est tout à fait dans l'actualité. Le principe aussi, c'est que nos intervenants doivent être compétents dans leur domaine, mais ils doivent aussi se faire plaisir. Parce que pour bien transmettre des connaissances, il faut aimer les transmettre.
Il faut être passionné déjà à la base.
Il faut être passionné, certain, ouais. Tout à fait.
Et d'ailleurs, ça s'entend. Hein. Je pense que Michel Bélanger, vous ne direz pas le contraire. Quand vous avez un conférencier qui est passionné par le sujet, forcément, vous êtes passionné aussi.
Tout à fait, tout à fait. En paléontologie, par exemple, nous avons Jean-Michel Mazin. Mais vraiment, c'est un plaisir de l'entendre et surtout de voir ses diaporamas. Ouais. Mais c'est vrai que... on a parfois des conférenciers qui nous disent « Ah mais moi, ma compétence, c'est ça, c'est la médecine par exemple, ou une spécialisation, mais pourquoi pas, je suis un passionné de musique, des Beatles par exemple, et peut-être qu'il va nous faire une conférence sur les Beatles. »
Et alors, cette année, on fait qui? Qu'est-ce qu'il y a de spécial cette année? Est-ce qu'il y a... Parce que là, 2020, c'était Gambetta. 2021, c'était l'année Covid. Donc, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais du coup, là, qu'est-ce que vous avez prévu pour 2022?
Alors, pour 2022, donc, nous allons poursuivre notre cycle de conférences un peu dans tous les domaines. Hein, philosophie, paléontologie, en histoire, en littérature. Et c'est surtout à partir de la rentrée 2022... nous avons deux grands projets. Le premier qui va marquer tout à fait la reprise de nos conférences, c'est un projet sur une figure locale qui est Jean Moliéra, qui est né à Vers, qui n'est pas très connu des Lotois ni même des Versois, et qui est né en 1853 et a fait une carrière à l'Opéra Comique en tant que ténor.
Mais pourquoi, pourquoi en parler finalement ? Parce que, qu'est-ce qu'il avait d'exceptionnel ce garçon ?
Alors, ce qu'il avait d'exceptionnel, c'est qu'il n'a pas du tout fait d'études musicales et que c'est tout à fait par hasard, lors de son service militaire, qu'on a détecté ce don exceptionnel, qui a permis de le faire entrer au conservatoire, puis à l'opéra comique, où il a joué les plus grands rôles du répertoire. Et à la fin de sa carrière, comme il a dû s'arrêter suite à une maladie des cordes vocales, il est revenu dans le Lot et il a acheté le château de Castelnau-Bourdenou, qu'il a sauvé. Il a consacré les 34 dernières années de sa vie au sauvetage du château de Castelnau-Bourdenou et à sa mort, il en a fait don à l'État.
Donc le château existe encore, il est toujours entretenu, et grâce à lui alors ?
Grâce à lui, tout à fait.
Donc forcément, dedans, on va aussi parler, j'imagine, dans ce cycle de conférences, et de l'homme et du château alors ?
Et du château, bien sûr.
Ça veut dire qu'il y a des choses à dire forcément sur le château ?
Oui, alors il faut noter que, bon, ce sera un peu en deux temps, nous ferons une conférence théâtralisée en quelque sorte à Vers, le lieu même de sa naissance, où Frédéric Daubier nous chantera des airs d'opéra qui ont été interprétés par Mouliera. On parlera bien sûr du mécène et du restaurateur. Et je dois signaler que lors du 150e anniversaire de la Société des études du Lot, qui est en partenariat avec nous sur ce projet, il y aura une communication plus spécifique sur le mécène et le restaurateur du château de Castelnau-Bretenou.
Cette année aussi, c'est un... Alors c'est... là, cette fois, on le connaît. L'autre personne que vous allez mettre en lumière en novembre, tout le monde le connaît. Hein, si on prononce Jean-Baptiste
Poquelin,
tout le monde pense à Molière et vous allez le mettre à l'honneur cette année.
Oui, alors sans une trop grande ambition, parce qu'il est vrai qu'énormément de manifestations sont organisées autour de cette année Molière. Simplement, au mois de novembre, nous allons consacrer une semaine ou 15 jours pour éclairer certains aspects de l'œuvre de Molière. Il y aura notamment un professeur agrégé de lettres classiques qui nous fera une conférence sur Le médecin malgré lui, et également une intervention que j'aurai le plaisir de faire en tant qu'historienne, qui abordera les relations de Molière avec le pouvoir royal, la question du mécénat, la question de la censure, avec notamment l'affaire Tartuffe.
Eh bien, dites-moi, et qui avez-vous trouvé pour faire ces conférences ?
Eh bien... pour ce qui concerne Molière et le roi, c'est moi-même qui assurerai cette conférence et dont nous avons une agrégée de lettres en retraite du lycée Clément Marot qui a travaillé sur cette pièce de Molière et donc qui nous la présentera.
Vous voulez rajouter quelque chose, Michel ?
Non, simplement, en cherchant ou en interrogeant un certain nombre de personnes, il y a des idées qui germent. Et des gens qui ont envie de partager leur connaissance et le partager de manière très libre.
Ça vous est arrivé des fois de trouver ça dans de trouver un conférencier dans une je sais pas dans un restaurant ou enfin dans un lieu où c'était pas du tout prédestiné
non,
à ça.
Non, mais comme notre site internet est connu et est accessible à tout le monde, on a eu parfois des messages envoyé sur notre site en disant « Voilà, je suis telle personne, j'ai telle spécialisation, j'aimerais venir vous participer à votre activité. » Et c'est comme ça qu'on a eu quelqu'un de La Rochelle.
D'accord.
Qui est venu parler sur l'Égypte. Mais c'est de bouche à oreille parfois. Et c'est vrai qu'on est vraiment surpris parfois que des gens... du département, des départements limitrophes, ou même de l'autre bout de la France, qui nous interrogent en disant « mais moi j'aimerais bien ».
Votre programme, j'imagine, vous le mettez aussi sur le site, parce qu'il y en a des choses. Hein.
Effectivement, tout est sur le site, il est accessible. Et donc,
on redonne l'adresse ?
Oui, le site c'est uptc-cahors.org.
Alors, pour continuer sur le programme, cette fois un peu plus classique de tout ce qui va arriver d'ici le mois de juin, Waouh. Alors, il y aura de la paléontologie avec, on parlera de la médecine de la vie, des origines de la vie des dinosaures. Il y aura l'épopée mammifère. Il y aura de la musique aussi, l'histoire du Moyen-Orient qui parlera aussi bien, comme vous l'expliquiez, Daniel Mariotto, du djihadisme que des Kurdes. L'histoire du monde méditerranéen avec Marco Polo. L'histoire de l'Espagne qui parle des exils des artistes espagnols. C'est vrai que, par exemple, quand on parle de l'histoire de l'Espagne, c'est pas l'exil des artistes qui me vient en tête, quoi. C'est-à-dire qu'il faut trouver des sujets qui soient pertinents dans ce cas-là.
Là, il s'agit de la fin d'un cycle qui a été commencé en 2020 par Madame Geneviève Dreyfus-Armand, qui est une spécialiste, justement, de l'histoire de l'Espagne et de la République espagnole. Et donc là, on arrive tout à fait en fin de cycle. C'est une conférence qui aurait dû avoir lieu déjà en 2020. Ouais. Et elle a voulu justement terminer par l'exil des artistes espagnols et notamment nous parler de la maison Pierre Dora à Saint-Cyr-la-Popie.
Et alors, le 14 et le 16 juin, là, on est vraiment dans la médecine avec un sujet proposé par un médecin, justement.
Oui, le professeur Malvy.
C'est quoi sa spécialité?
C'est un biologiste.
C'est un biologiste qui travaille beaucoup avec l'Institut Pasteur, si mes souvenirs sont bons. Et donc, il a souhaité nous parler de la cellule, nous montrer comment la cellule normale devenait la cellule cancéreuse. Et qui. Le professeur Malvy place beaucoup, beaucoup d'espoir dans la technique de de l'immunothérapie. Et il a souhaité nous la présenter justement lors de son séjour lotois. On revient toujours à ce qu'on disait, quelqu'un qui vit en région parisienne, mais qui a ses racines lotoises et donc qui était très emballé par l'idée de nous faire partager ça.
Et on n'a pas été le chercher.
C'est lui qui s'est proposé.
Alors c'est ça le point fort, c'est que quand on parle et là les auditeurs, c'est ce que je voudrais leur faire comprendre, c'est qu'effectivement quand on parle d'université tout de suite, oh là là, mais qu'est-ce que je vais m'ennuyer. Et en fait il y a des sujets vraiment mais pour tout le monde. C'est-à-dire on va parler aussi bien de littérature, j'ai vu qu'il y avait Balzac, oui. Que de science, quoi. Je veux dire et toujours avec c'est ça qui est votre point fort au final de l'université pour tous.
C'est un peu l'idée de il y a moult savoirs.
Ouais.
Partager. Et donc il faut partager ça. Et il y a des gens qui sont plus intéressés par des problèmes d'histoire, d'autres de la philosophie. Nos premières conférences sur la philosophie, l'amphithéâtre était plein. Il y avait plus de 100 personnes.
Pourtant, la philosophie, vous me parlez de philosophie, je n'y comprends rien. Hein.
Et c'est un ancien professeur agrégé qui vit sur Cahors, qui est bien connu.
Est-ce que ce sont d'ailleurs des conférences qui pourraient rentrer dans la lignée de la collection des livres pour les nuls? C'est-à-dire qu'on va voir cette conférence, on n'y connaît rien, et finalement, on s'en ressort grandi parce qu'on a appris de belles choses.
Je pense.
Et sans s'ennuyer. Hein.
Oui.
Attention. Hein.
Oui,
si je viens à une conférence et que je m'ennuie, je me retourne à vous, Daniel et Michel. Hein.
Tout à fait, pas de problème.
Si un jour je viens à une conférence de philosophie, j'ai pas terrain à m'ennuyer, je vous le dis tout de suite. Hein.
Non, c'est une des finalités de l'université, c'est favoriser le développement des personnes et de répondre à leurs attentes sur tel ou tel domaine.
Prochaine conférence, c'est justement le lundi 7 mars où ça sera de la philosophie et en même temps un sujet qui est intéressant, l'univers existe-t-il? Donc ce sera à l'amphithéâtre, j'imagine, de l'université.
Au centre universitaire.
Tout le programme est disponible de l'université pour tous Cahors Quercy sur uptc-cahors.org et n'hésitez pas, il y a tout un programme qui est fait et puis évidemment toujours se tenir au courant parce que les choses peuvent changer. Hein, on a vu ça les deux dernières années. Merci beaucoup Michel Bélanger.
Merci.
Merci Daniel Mariotto.
Merci à vous.
Et puis à très vite donc pour parler de ces prochaines conférences, qui sait, avec grand plaisir. C'est la fin de ce magazine. À réécouter tout à l'heure à 17h en rediff et à 21h30 et en podcast sur cfmradio.fr. Dans un instant, le journal.